Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble, 90.8.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue sur Campus Grenoble 90.8. Je m'appelle Samuel et mon truc à moi c'est les entretiens autour du cinéma avec un invité ou une invitée qui vient me parler de son film préféré, concrètement. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Danae. Salut Danae.
Salut à tous.
Alors on va parler avec toi, c'est toi qui as choisi donc le film un de tes films préférés qui s'appelle Premier Contact. On va en parler dans un instant, mais déjà, je te laisse te présenter un petit peu pour nos auditeurs, parce qu'on va évoquer un peu ton amour pour ce film, comment il s'articule autour de ce film.
Ok, moi c'est Danae. J'étais récemment étudiante en art du spectacle, je viens de finir ma licence à Grenoble. Et l'année prochaine, je me spécifie plus dans la réalisation, donc le côté pratique, à Lyon cette fois-ci. Et voilà, on cinéphile.
Ouais.
C'est pour ça qu'on est là.
Et oui. Et quel goût cinématographique tu as en manière générale? Donc, Premier Contact, c'est un film de science-fiction. Est-ce que c'est le genre de cinéma que tu vois d'habitude?
Je suis très ouverte sur les genres, mais c'est vrai que la science-fiction, c'est un des trucs qui me fascine le plus pour le côté complexe et tout ça. Mais oui, on est très dans le thème là. Moi, j'adore les films qui parlent du temps et de la complexité. On est parfait.
Ça parle de complexité, essentiellement, c'est ça, c'est le thème du film. Donc, c'est Premier Contact avec son titre anglais Arrival, donc de Denis Villeneuve, sorti en 2016. Denis Villeneuve qui est canadien et qui a fait un certain nombre de films à présent, qui est aujourd'hui une grande figure du cinéma hollywoodien de science-fiction, avec Dune récemment. Donc Premier Contact, c'est une adaptation de la nouvelle de Ted Chiang, L'histoire de ta vie, qui raconte plus ou moins la même chose, et c'est avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va spoiler comme des sagouins,
ouais.
C'est comme ça qu'on dit, je sais pas. On va beaucoup spoiler parce que l'intérêt aussi quand même c'est de pouvoir analyser à fond et d'aller raconter la fin du coup,
ouais.
Et aussi désolé mais on va passer des extraits en VF. Du coup, on va tous avoir très mal aux oreilles, peut-être, car on aime tous la VO. Mais pour la compréhension de tous, c'est mieux en VF. On va pouvoir commencer notre première partie en abordant le thème du film. Et pour ça, on va déjà passer un petit extrait qui arrive tout de suite.
Je le crois pas.
Vous enregistrez?
Oui, colonel. On l'upload en direct au camp de base.
Louise, c'est pas croyable.
Alors, on va passer donc au film. Qu'est-ce que ce film donc, je vais te demander de nous raconter un peu Premier Contact, nous dire quel est le but de ce film, à quoi il ressemble, quelle est son esthétique, etc. Qu'est-ce que tu en retires de ce film?
Alors, si on devait résumer Premier Contact, ce serait d'abord l'histoire de l'arrivée de formes aliens sur Terre, un peu partout sur le globe. L'appel de l'armée pour trouver une linguiste, enfin une professeure en linguistique, pour aider à comprendre en fait la langue et la vie et pourquoi ces aliens sont sur Terre, qu'est-ce qu'ils veulent et voilà, comprendre leur intention.
Ouais, c'est ça, dépêchée par l'armée parce que les vaisseaux sont arrivés à plusieurs points du globe.
Ouais.
Et le but, c'est une espèce de contre-la-montre, quoi, un petit peu.
Ouais, c'est un peu d'empêcher qu'il y ait un conflit à la longue et une guerre, même.
Et une guerre, oui, c'est ça, avec certains pays qui essaient de vouloir tabasser les aliens, concrètement.
Ouais.
Alors que Louise, la linguiste, essaie d'être plus...
Pacifiste.
Pacifiste. Quelle esthétique il y a autour de ce film? Parce que c'est quand même un film très particulier, notamment tu parlais de complexité. Qu'est-ce qui est complexe dans ce film pour toi?
Je dirais que ça, déjà, en termes d'esthétique, c'est très froid et très lent. Mais pas lent dans le sens ennuyeux, lent dans le sens les choses viennent comme elles doivent venir, je dirais. Et c'est marrant parce que c'est un film qui parle de choses très lourdes quand même en termes de sujet et en termes de, d'action, quoi. C'est, c'est à la fois réaliste et à la fois un peu irréaliste.
Il y a un côté anti-spectaculaire,
ouais,
quoi. Ouais,
c'est clair. Ouais. Mais du coup, il y a quand même un calme là-dedans qui est un peu surprenant quand on regarde l'ensemble du film où c'est quand même des aliens qui débarquent sur Terre, quoi. Donc c'est censé être un peu la panique à la base. Et là, en fait, il se passe un calme et un pacifisme entre aliens et humains qui est assez étonnant pour une histoire de débarquement d'aliens, quoi, je trouve.
Oui, le côté pacifique, oui. Qui est assez inédit. Mm. Oui, qui est assez, en tout cas, qui est une espèce de retour à ces films-là un peu plus pacifistes. Mm. Il a beaucoup été comparé à Rencontre du troisième type, oui. De Spielberg, ouais. Il y a tout un pan à la fin d'une complexité, justement, d'un mystère qui s'articule autour de ce langage-là. Mm. Ça fait partie des choses qui t'ont un peu fasciné dans ce film, toutes ces questions du langage.
Ouais, ça reprend un peu l'esthétique de Villeneuve aussi, d'essayer de décortiquer un peu le fonctionnement humain, en fait. Il y a souvent fait des films sur la mémoire, sur le souvenir, la mémoire, et là, la langue... Et comment, en fait, la langue peut influencer sur notre compréhension physique du monde autour de nous, quoi.
Oui, il y avait Enemy, c'est ça, dont tu parles, ouais, avec Jake Gyllenhaal. Mm. Oui, qui traitait déjà beaucoup de la mémoire, la dissociation d'identité, ouais, mm. Tout à fait. Et du coup, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il n'a pas un côté blockbuster, ce film.
Oui.
C'est un peu comme s'il était très... comme tu dis, la lenteur... ça fait presque film d'auteur, mais ce n'est pas un, parce qu'il a coûté très très cher. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est une œuvre importante pour toi? Qu'est-ce qui fait que ce type de complexité, ce type de film qui ne soit pas forcément quelque chose de très de blockbuster, de très spectaculaire, de très action, ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi comparé à d'autres films?
Peut-être le fait que j'aime beaucoup les films, encore une fois, qui traitent de la complexité, mais qui... On sent qu'il y a une sorte de casse-tête,
ouais.
Et que c'est fascinant tout le long du film d'essayer soi-même de réaliser ce casse-tête, en fait. Et aussi le travail de recherche, parce que j'ai l'impression que c'est quand même des films qui sont tellement poussés qu'on se dit, en fait, ça peut arriver demain, quoi. Alors que ça n'a pas l'air comme ça, quoi.
Bah, de recherche, comment quel type de recherche?
Surtout le travail, quand elle fait ses recherches, d'essayer de comprendre leur langage, qui est à la fois physique et mental... en fait, on sent qu'il y a limite des travaux qui ont déjà été faits sur ça en amont du film et qu'ils ont beaucoup repris ce qui aurait pu déjà être fait pour partir de cette base-là. Et du coup, on sent qu'ils partent pas sur une base totalement fictionnelle, en fait.
Oui, qu'ils vont aller chercher une théorie scientifique, linguistique assez précise.
Ouais.
Oui, parce qu'ils vont beaucoup citer des noms de théoriciens comme Sapir-Whorf, des ouais. choses comme ça. Donc, Sapir-Whorf. Est-ce que tu as retenu ce que c'était, Sapir-Whorf? Moi, j'ai un peu regardé ça un peu, donc je sais, mais... ce qui était marrant avec Sapir-Whorf, c'est de dire que le langage peut influencer la vision du monde.
Ah oui, oui.
Et donc, c'est un peu là qu'il y a le puzzle, en fait, de Louise. Et toute cette fin, justement, c'est quoi justement ce puzzle? Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, en fait. C'est quoi ce mystère à la fin?
C'est qu'en fait, tout le long du film, elle va essayer de comprendre leur langage. Et ça va, on va dire, lui débloquer une sorte de don de vision, à la fois de rêve, de... de vision, c'est très global comme terme, mais ça résume assez bien. Et en fait, elle va se rendre compte que comprendre leur langage, ça va lui donner des clés de compréhension sur le monde qui l'entoure. Autant humain que en fait au-delà de ça, quoi.
Ouais, elle va réussir à essayer de propager après la bonne parole de tout ce qu'elle a appris,
oui, ouais.
En termes de traduction. Pour avoir un peu regardé l'intérêt linguistique de ce film, C'est des choses qui... Elle va un peu se baser sur une traduction comme avait fait Champollion avec la pierre de Rosette, en fait. Elle va essayer de traduire à partir de données déjà existantes et d'essayer de comparer les symboles.
De faire un lien, en fait.
Voilà, c'est ça, de faire un lien. Et cette question du langage, c'est quelque chose qui te passionnait avant, ou est-ce que ça t'a surpris, ça t'a donné l'impression d'arriver sur quelque chose que tu connaissais pas du tout et que t'avais jamais vu avant?
En vrai, pas vraiment. J'étais pas vraiment dans le domaine, mais c'est plus lié au côté des questions du temps et de la temporalité. Ouais. Ça, par contre, c'est vraiment un truc que je regarde beaucoup dans les films, cette question-là, même la construction d'un film par rapport à ça, en fait. Ouais. Mais la question du temps, vu qu'elle l'a, elle se mêle à la question du langage et de la vision du monde. Ouais, pour le coup, ouais.
Ouais. Bah, oui, c'est ça, ça influence la manière dont va être fait le montage, en fait. Parce qu'il y a quand même une confusion, du coup, en montage.
Ouais, c'est vrai que le côté puzzle dont tu parlais, enfin, il y a beaucoup de films qui se construisent on part du centre du puzzle, on essaye de reconstituer le tout. Et là, c'est un peu le contraire, on part des angles, donc on est un peu perdu au début. Mais au fur et à mesure, ça commence à constituer un tableau assez logique. Et du coup, ce sens inverse, un peu désordonné, mais redonné à la fois, fait que, pour moi, c'est une œuvre parfaite.
Parfaite, carrément.
Oui, parfaite.
Ouais, parce qu'au montage, il y a un peu... Enfin, on commence sur une séquence qu'on a l'impression que c'est un flashback.
Ouais.
Et petit à petit, on se rend compte que tout ça, c'est des flash-forward, donc des visions du futur qui se mélangent, qu'on n'arrive pas trop à comprendre tout de suite.
Le côté boucle un peu.
Voilà, c'est ça, le côté boucle... Qui rappelle en fait les symboles, du coup, qui sont des boucles aussi en elles-mêmes. Et Denis Villeneuve, de manière générale, c'est un réalisateur que tu suivais avant?
Pas vraiment, plus pour Blade Runner peut-être, récemment aussi. Mais juste là, hier soir, je me suis regardé Incendie.
Ouais.
Et je dois dire que c'était une claque aussi.
Ouais.
On aurait pu faire une émission là-dessus.
Aussi, ouais.
Mais ouais, c'est à peu près les seuls films que j'ai regardés. Ennemi, pareil, je ne l'ai pas regardé, mais j'en ai beaucoup entendu parler quand même aussi.
Oui, il était... pareil, ça joue beaucoup sur la narration un peu éclatée, un peu étrange comme premier contact. Et oui, c'est vrai que Denis Villeneuve, il s'illustre beaucoup plus aujourd'hui dans la science-fiction qu'avant. Incendie, c'était pas du tout de la science-fiction, c'était une adaptation aussi, une pièce de théâtre. Mais oui, c'est vrai qu'il va être un peu la figure aujourd'hui d'une science-fiction un peu lente, comme ça, à la Blade Runner, en fait.
Qui prend son temps, ouais.
Ouais, c'est ça, qui prend son temps. Je crois que c'est quand même l'intérêt de ce film aussi, d'avoir quelque chose de très lent, à la lisière entre le film d'auteur, peut-être. Bon, on va pouvoir ensuite parler un peu de ton rapport plus personnel au film, un peu plus regarder d'où te vient ce film, pourquoi tu m'as soumis cette idée-là aussi. Avant ça, on va passer une petite séquence musicale. Alors, la séquence musicale, donc, il s'agit d'une musique de Max Richter. C'est toi qui l'as choisie.
Oui.
Et pour quelle raison t'as choisi cette musique-là?
C'est une musique hyper émouvante et je dois dire qu'elle est liée à plein de moments de ma vie. Puis pareil, on la retrouve dans beaucoup de films et beaucoup surtout de scènes très symboliques dans beaucoup de films. Je pense notamment à Shutter Island. Et elle dégage quelque chose, quoi, cette musique. C'est très particulier à expliquer, mais...
Ok, on va l'écouter tout de suite. Donc c'est une musique de Max Richter. J'ai plus le titre exactement.
On the Nature of Daylight.
Parfait, en plus avec l'accent, trop bien. On va l'écouter tout de suite et on se retrouve après sur Campus Grenoble 90.8. Thank you. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 dans l'apérophonie et je suis toujours avec Danae qui est venue nous parler de Premier Contact, un de ses films préférés.
Oui.
Et on va en parler un peu plus justement de cette préférence et de cet amour pour ce film. On va écouter d'abord un petit extrait du film, tout de suite.
J'ai commencé à me documenter sur cette nouvelle théorie. Il paraît que si on s'immerge à fond dans une langue étrangère, on a la capacité de reconfigurer son cerveau.
Oui, c'est l'hypothèse Sapir-Whorf. Selon cette théorie... La langue qu'on parle détermine le caractère.
Oui, oui. Ça affecte toute notre façon de voir les choses. C'est... Je me demandais, est-ce que vous rêvez dans leur langue ?
J'ai pu faire quelques rêves, mais je crois pas... Je crois pas que ça me disqualifie pour faire ce job.
C'était donc un extrait de Premier Contact, à peu près au milieu du film.
Ouais.
Avec les, on parlait tout à l'heure justement de l'hypothèse de Sapir-Whorf. Mm-hmm. Donc, ça parle vraiment de théories linguistiques assez précises qui font partie du débat en linguistique.
Ouais.
Donc c'est toi aussi, pareil, qui a choisi cet extrait. Tu l'as trouvé vraiment central dans ce film ? C'est quelque chose qui t'a vraiment parlé particulièrement par rapport à ce film ?
Assez, ouais, parce que je trouve que c'est... Ça témoigne de à quel point en fait son implication dans son métier et à quel point en fait ça devient personnel puisqu'elle s'implique vraiment dans essayer de les comprendre. C'est limite s'il y a une relation qui se crée entre elle et les octopodes, je crois que c'est ça leur nom. Mais du coup c'est plus ouais se dire qu'en fait elle est tellement impliquée là-dedans que limite toutes les théories du coup linguistiques de elle commence à rêver même pas dans leur langage bah concrètement, ça commence à lui arriver, quoi, en fait.
Oui, c'est ça. Elle commence à complètement vriller à ce ouais. moment-là. Oui, c'est là que le langage s'imprègne en elle, oui. Et même le fait qu'elle rêve de ça à ce moment-là, c'est pas forcément une actualisation de la théorie Sapir-Whorf, parce que c'est une théorie qui est, en linguistique, assez contestée.
Mm-hmm.
Mais plus, ça reflète sa réflexion. Donc, c'est ça que je trouve assez intéressant à ce moment-là. Elle est en train de se poser la question avec une théorie contestée. Donc ça prouve aussi que c'est un film assez référencé en termes de linguistique. Alors on va passer du coup justement à cette partie plus personnelle de cette émission. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce film quand tu as voulu me le soumettre ? Qu'est-ce qui est important dans ce film dans ton histoire personnelle, dans la limite de ce que tu as envie de raconter bien sûr, mais qu'est-ce qui t'a touché particulièrement ?
Déjà le fait que tu avais déjà bossé sur ce film ça m'a encouragé à le choisir mais aussi comme je l'avais dit tout à l'heure les films qui traitent spécifiquement du temps je dirais c'est vraiment une question soit le temps soit l'espace c'est vraiment des films qui me fascinent j'ai l'impression qu'après avoir regardé ces films j'ai envie de me plonger dans des théories la plupart des gens n'ont pas du tout envie d'en parler mais moi je pourrais en parler pendant des heures et c'est aussi cette question de désordre parce qu'en fait c'est marrant que ce soit un film qui parle du temps mais qui le déconstruit totalement. Même au-delà, enfin dans le montage, on le voit très bien. Et aussi ce côté réalité dans la fiction. J'aime beaucoup les films, en fait, où on peut se dire, ça peut nous arriver, quoi. Je veux dire, ça paraît pas irréel, quoi. Et alors que le sujet est totalement démesuré. Et aussi l'histoire du personnage principal de Louise, qui en fait. C'est marrant parce que dès le début de l'histoire, on a l'impression qu'on commence à la connaître à travers le film.
Ouais.
Et en fait, on la connaît mieux qu'elle se connaît parce que, spoiler, nous, on voit les bribes de son futur qu'elle n'a pas encore vu au début du film. Et du coup, c'est aussi ce truc de voir sa vie avant qu'elle-même, elle le voit. Et du coup, la connaître à travers quelque chose qu'elle ne nous montre pas dans le film ou dans ses actions. C'est aussi des sortes de constructions de personnages que je trouve super intéressantes dans le ciné, surtout la façon dont c'est construit. Quoi.
Ouais, d'autant que ça explique un peu son caractère, ça caractérise le personnage qui est un peu dépressif, quoi,
ouais.
qui est même vachement.
C'est clair.
Parce qu'il faut rappeler que le film s'ouvre sur la mort de sa fille,
oui.
Qui se trouve être une vision du futur, mais elle ne le sait pas encore. Et du coup, est-ce que. Est-ce que le futur influence déjà sa vie ou est-ce qu'elle est juste complètement dépressive depuis longtemps Ça laisse ce mystère-là. Donc ouais, tu pointais la question entre la réalité et la fiction, quelque chose de très proche de la réalité. Tu veux dire en termes scientifiques ou en termes juste de dire c'est notre vie contemporaine et du coup les aliens arrivent
Un peu les deux, parce que c'est un peu improbable pour quelqu'un de se dire que là, il y a un vaisseau qui va débarquer et on va devoir communiquer avec des aliens. Mais c'est tout le côté après qu'ils soient arrivés que je trouve super réaliste dans le comment on essaie de mettre en place la passerelle entre nous et eux, alors même qu'on n'a pas du tout la même langue. Et en fait, du coup, c'est comprendre comment décrypter la leur, mais par rapport à la nôtre. Enfin, c'est ce qu'on fait et ce qu'ils font dans le film. Et c'est toute cette... ce travail-là de recherche dans le film que je trouve en fait réaliste, quoi.
Ouais, aussi, oui, c'est ça, ils sont allés assez loin dedans. Ça a même un nom en science-fiction, c'est un sous-courant de science-fiction qui s'appelle la hard science. Mm-hmm. Voilà, c'est ce genre de film qui va être très précis sur l'utilisation de la science, qui vont essayer d'en faire un moteur d'intrigue. Rencontre du troisième type avait déjà un peu commencé ça avec ce langage musical, alors c'est un peu plus extrapolé, mais mm-hmm. ça avait déjà un peu commencé ce truc-là. Donc c'est presque tout un courant de science-fiction, mais du coup je trouve ça intéressant que tu aimes bien cet aspect-là du film, parce que c'est anti-science-fiction presque, c'est anti-spectaculaire, et c'est un truc qui te plaît de manière générale, comparé par exemple à Star Wars, pour aller vraiment dans un truc vraiment opposé.
C'est marrant parce que du coup Star Wars, bien que avec mes études de cinéma j'arrive plus à regarder un film, on est dans le divertissement pur, j'analyse tout, mais Star Wars je vais plutôt le regarder en termes de je m'amuse de voir les scènes, de voir comment se construit l'histoire des persos, alors que ça là c'est vraiment je suis engagée dans essayer de comprendre comment ça marche, et c'est le genre de film où, comme je disais, après je vais aller faire des recherches à savoir s'ils ont vraiment sorti ça de nulle part, ou alors si c'est quelqu'un qui l'avait déjà théorisé, ou si eux ils ont romantisé quelque chose qui a déjà été théorisé. Donc c'est plus ce côté là
ouais, donc quelque chose qui est moins dans le divertissement en fait,
c'est ça. Totalement.
C'est ça. Et ouais, tu parlais aussi de la question du désordre, oui, c'est quelque chose qui va vraiment t'attirer, ce côté un peu science-fiction conceptuel, en fait. On va avoir un concept temporel, un concept comme ça. Ouais, c'est quelque chose que tu vas aller chercher souvent.
Ouais, surtout, je dirais que j'adore les films plot twist, parce que, pareil, j'ai du mal à regarder un film. Tout le monde me dit, tu verras, il y a un énorme plot twist à la fin. Et moi, en fait, je le capte au bout de 20 minutes du film. Je me dis, bon, j'essaie de me challenger et de trouver des films vraiment complexes. Et pour le coup... la première fois que je l'ai regardé, Premier Contact, j'avais pas ce plot twist en avance, quoi. Et c'est ça que je trouve bien aussi dans le film, c'est qu'en fait, ils nous tiennent en haleine un peu tout le long, parce qu'ils nous donnent des indices sur en fait, comment on se tourne la fin. Mais comme il se passe toujours quelque chose dans l'action ou dans le dialogue, on s'accroche jamais à réfléchir à qu'est-ce qu'est la fin, en fait. On est toujours dans le regarder, et on n'arrive pas à réfléchir assez longtemps pour se dire « Ok, c'est ça la fin ». Donc pour moi, c'est ça qui fait le film, en fait.
Ok, ouais, c'est intéressant. Parce que du coup, tu te reposes moins sur l'envie de voir un twist, et plus sur ce qui se passe vraiment à l'instant présent, ce qui fait que ça va être assez agréable à regarder,
ouais,
du coup.
Ouais, c'est ça.
Ouais, d'ailleurs, tu le regardes...
Ouais, je le regarde
souvent, c'est vrai.
Enfin, j'essaie de le faire une fois par an, max,
C'est une tradition?
Ouais, enfin, pas vraiment une tradition, mais si je le regarde plus d'une fois par an... Je me dis qu'au bout d'un moment, je le connaîtrais trop et ça va falloir.
Ouais. C'est ça, c'est le risque quand on bosse dessus, notamment. ouais, donc si tu le regardes une fois par an, et t'as toujours la même émotion, genre que tu le regardes.
À chaque fois.
Ouais, et ça t'apporte toujours quelque chose de nouveau, tu vois des choses nouvelles dedans.
Ouais, du coup, il y a toujours un regard neuf avec la réflexion qu'on s'est déjà fait. Enfin, moi, je trouve personnellement. Ce qui fait que, à chaque fois que je le regarde, en fait, je me dis. Pense à la fin et pense à comment ils ont construit, en fait, sachant que eux, quand ils l'ont tourné, ils savaient déjà la fin. Donc comment ils ont taffé pour pas nous faire sentir directement le plot twist, mais pour nous le déconstruire, quoi. Donc en fait, j'en apprends un peu à chaque fois.
Ok, et qu'est-ce qui fait du coup que malgré tous les visionnages, malgré le fait que tu vois des nouvelles choses à chaque fois, qu'est-ce qui fait que tu aimes toujours autant vraiment ce film? Fondamentalement, en tant qu'amour, en tant que tu chéris, quoi, qu'est-ce qui fait que ça reste intact et comment tu arrives à gérer justement la ligne à pas dépasser pour que ce soit que tu t'en lasses, quoi.
Ouais, je dirais que c'est mon rapport à comment je vois le temps, encore une fois, ça tend toujours autour de ça, mais je trouve que c'est mega important. Parce que c'est un peu l'angoisse du temps linéaire, de se dire, voilà, on fait ça dans la vie, il y a un début, il y a une fin, quoi. Et les films qui déconstruisent ça, bah, ça me passionne parce que j'ai l'impression de toujours en réapprendre et d'un peu m'éloigner de cette vision angoissante du temps qu'on ne contrôle pas, quoi. Et du coup, les films comme ça, on se dit, ah ouais, si t'apprends un langage et qu'au final, tu te rends compte que le temps, il n'est pas linéaire et que bah, tu peux voir le futur ou le passé, ouais, ça, c'est un peu comme désangoissant, je dirais.
Ok.
Et ça me prend au trip. Ouais.
Ouais, sur le plan personnel, du coup, ça t'apporte vraiment quelque chose. Ouais. Donc, ouais, ça te rassure. Ça te fait souvent ça, le cinéma, ou c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment les films comme ça que t'aimes revoir qui te donnent cette impression-là de.
Tout dépend ouais. du sujet, je dirais. Ouais. Mais ouais, les films comme ça où il y a un vrai questionnement humain. Sur que ce soit la mémoire, le temps, l'espace, en fait, les choses qu'on ne comprend pas totalement dans leur entièreté. Ouais, ça, je trouve ça, c'est les meilleurs, quoi.
Ok, qu'est-ce qui va te rassurer, du coup, parce que, est-ce que ça rassure, enfin, quelle peur, voilà, c'est ça que je voulais dire. Quelle peur ça va rassurer? Est-ce que c'est une peur de la mort? Est-ce que
ouais,
c'est une peur...
il y a de ça, Il y a peur de la mort, peur de passer à côté de quelque chose, peur de ne pas avoir le temps qui passe... peur de perdre des gens, ça tourne tout autour de ça, quoi.
Mais pour autant, est-ce que c'est un pouvoir que t'aimerais bien avoir? Le fait de voir tout en même temps?
Ouais, je suis pas sûre.
Parce que justement, son histoire est tragique à Louise, en fait. Ouais. C'est qu'elle sait que sa fille va mourir.
Je fais le choix de quand même vivre ça. Mais c'est ça que je trouve beau, justement. C'est qu'à chaque fois de me dire, elle a la vision d'horreur que va devenir sa vie si elle prend le choix d'avoir cet enfant. Et pourtant, elle le fait quand même parce qu'elle a besoin de vivre ça pour être qui elle est, en fait. Et c'est comme si le futur lui confirmait qui elle était dans le présent, quoi, alors que ça ne s'est pas encore passé. Donc, ouais, moi, c'est ça qui fait du bien, quand même.
Qui fait du bien. Ouais, parce que c'est quand même une histoire très tragique, ouais. Donc, paradoxalement, ouais, ça peut quand même faire du bien. Et c'est une œuvre que tu partages beaucoup avec d'autres personnes. Est-ce que cet amour-là, est-ce que les gens autour de toi peuvent l'avoir compris? Est-ce que c'est trop conceptuel pour certains? Est-ce que c'est trop, au contraire, un peu trop grand public? Parce que c'est un film qui se situe un peu entre les deux.
C'est vrai. Ce film, la personne avec qui j'en ai le plus parlé, c'est mon père. Et j'avoue que mon père, il a une façon très... pas critique, mais il dit ce qu'il a aimé dans le film et ce qu'il n'a pas aimé. Et c'est très dur, en général, de le faire pleurer, de le faire lâcher la larme. Mais les films, ouais, comme ça, surtout quand ça parle de relations d'une mère à son enfant ou en général de la famille, de la perte, du décès, c'est des thèmes que je partage un peu avec lui dans les films qui m'ont le plus ému. Donc ouais, je dirais que ce film-là, pareil, j'en ai déjà parlé avec lui et c'est un film pour le coup qui trouve très bien construit, quoi. Ouais.
C'est quelqu'un qui regarde beaucoup de films, ton père, ouais, et tu parles beaucoup de cinéma avec lui.
Ouais.
Ouais, vous retrouvez un peu là-dessus.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Ok, et ça, je passe, est-ce que le fait de parler de ce film, bon, je suis peut-être un peu loin, je sais pas, mais est-ce que ça a produit quelque chose, je sais pas, dans votre relation, j'en sais rien, est-ce que le fait d'en discuter, est-ce que ça a aussi mis une autre lumière sur le film?
Je pense qu'il aime bien aussi m'expliquer justement le côté théorique, scientifique.
Ok.
Il aime bien me l'apporter un peu, parce qu'il est chercheur, bon, pas du tout dans ça, mais c'est un peu son truc quand même. Et du coup, il aime bien m'apporter cette... ouais, les vérités, quoi, derrière ce qui a vraiment été déjà dit et posé sur les thèmes d'un film, quoi. Mais après, je pense que c'est moi qui apporte le plus le côté analyse décortiquer, voilà.
Ah oui, vous complétez
un petit peu. Ouais.
C'est pour ça que tu as voulu faire des études dans ce domaine-là, entre autres, je sais pas.
Plein de choses.
Oui, j'imagine.
J'y touche juste depuis que je suis toute petite et ça m'a confirmé que je voulais faire ça.
Ok. Et ouais, encore une question... est-ce que ça t'a encouragé, ce film-là, à aller chercher d'autres œuvres? Justement, quand tu me dis que ça t'a donné envie de chercher autour de ce film, est-ce que ça t'a fait tendre vers d'autres œuvres, soit de science-fiction, soit pas du tout,
ouais,
ou de Denis Villeneuve, ou pas du tout? Bah, du coup, tu parlais d'Incendie tout à l'heure.
Ouais, Incendie, ouais. Bon, pareil, je l'ai vu que très récemment, donc je suis pas sûre de pouvoir en faire tout un truc.
Bien sûr, non, ouais.
Mais ce qui est côté, ouais, science-fiction, un peu dans cette idée aussi de comprendre ce qui nous entoure. J'en ai noté quelques-uns.
Ouais.
Alors, j'ai Interstellar qui est pour moi un indémodable, si on peut dire.
Ouais.
Rencontre du troisième type qu'on avait cité juste avant, mais aussi des films un peu moins, peut-être un peu moins cotés, comme Source Code ou Prédestination, qui sont des films qui parlent du temps, pareil, du désordre et de comment fonctionne en fait le voyage dans le temps, ou ce genre de trucs. Et sinon, en termes de séries, moi, ma série préférée de tous les temps, c'est Dark. Et on comprend pourquoi, vu que
tout à fait. Oui, Dark est quelque chose de très lent aussi, qui est très esthétique, aussi très stylisé. Donc une série Netflix sur le voyage dans le temps, notamment sur trois boucles temporelles dans un petit village. C'est intéressant, oui, parce qu'il y a le même aspect de huis clos un peu aussi, quelque chose, on est tout entre les mêmes personnages tout le temps. Dark, c'est vrai que c'était assez incroyable. Interstellar aussi, ça va un peu chercher le même type de cinéma intellectuel, mais pour autant blockbuster, grand public, qui essaie de vulgariser, on va dire, une espèce de science un peu aussi, science physique là pour le coup.
Ouais. Puis c'est un peu, je trouve que comme Interstellar, Premier Contact, c'est un peu un film qui part d'un sujet global de on va éviter une guerre avec les aliens et donc on va tout faire pour essayer de créer du contact avec eux et faire ça de manière pacifiste. Et au final, ça apporte beaucoup au personnage principal dans sa propre vie. Et Interstellar, c'est un peu ça, c'est sauver l'humanité parce que la Terre, elle est en train de mourir. Et pourtant, le personnage doit faire un choix entre sauver sa vie qu'il a actuellement ou alors sauver l'humanité tout entière, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est partir d'un sujet très large et en fait aller dans le très intime.
Ok, ouais, c'est ça. C'est... Oui, rentrer dans l'intime, effectivement, par cette façon de réaliser très lente.
Ouais.
On va pouvoir passer à la troisième partie, mais avant ça, donc la troisième partie qui est consacrée à une scène que tu as choisie et qu'on va pouvoir analyser, on va discuter un petit peu de ça, mais avant ça, on a une autre séquence musicale qu'on va passer maintenant, qui s'appelle Around the Clock, c'est ça. Pourquoi tu as choisi cette musique? C'est toujours la même question, très compliquée.
Parce qu'elle pose un contexte un peu de course contre la montre, je trouve. Enfin, bon, ça se retrouve dans le titre de la musique. Mais ça pose vraiment ça dans le film.
Oui, c'est ça qui est à la fin. Petit à petit, à la fin, on est rattrapé par le système médiatique et toute la diplomatie.
La pression, en fait.
Et toute la pression, tout à fait. Et bien, on va pouvoir écouter ça tout de suite et on se retrouve après sur Campus Grenoble 90.8. C'était donc Around the Clock, une musique du film Premier Contact dont on parle aujourd'hui dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. Donc on est toujours avec Danae qui nous a parlé de ce film qui lui est très cher. Et maintenant on va pouvoir passer à la troisième partie qui consiste à essayer d'analyser une des scènes du film. Et on va pouvoir d'ailleurs avant tout ça écouter l'extrait. C'est un extrait qui est très musical, qui d'ailleurs reprend la musique de Max Richter qu'on a entendu plus tôt. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce qui se passe dans cette séquence? Parce qu'on va entendre des dialogues, mais c'est beaucoup de musique.
Séquence de fin où en fait... tout devient plus clair. Après, c'est très visuel aussi, mais c'est vraiment expliquer qu'en fait, le début, c'était la fin, et la fin, c'était le début.
Ouais, voilà. Qui se noue autour de l'histoire d'amour des deux personnages principaux.
Ouais.
Elle fait le choix, justement, dont on parlait tout à l'heure, de faire un enfant. Voilà. Mm. On va pouvoir écouter ça, justement, à ce moment-là. Donc, c'est tout un montage visuel et sonore sur ces deux personnages-là, à différentes époques de leur vie, etc.
Ouais.
Donc, on va pouvoir écouter ça tout de suite.
Voilà, Anna. C'est là que commence ton histoire. Le jour de leur départ.
Est-ce que tout va bien?
Même si je connais d'avance le voyage et sa destination, j'y souscris totalement. Et je compte profiter à fond de chaque instant. Puis à la fin, vous changeriez quelque chose.
Peut-être que je dirais plus souvent ce que je pense. Enfin, on ne sait rien. Vous savez, je crois que j'ai la tête tournée vers les étoiles depuis que j'ai l'âge de m'en souvenir. Vous voulez savoir ce qui m'a le plus surpris? C'était pas de tomber sur eux. C'était de tomber sur vous.
Voilà, c'est la fin de Premier Contact, la toute fin. C'est vrai que c'est très peu radiophonique finalement, mais c'était beaucoup très musical. Mais ça raconte vraiment ce départ des aliens et la manière dont Louise va pouvoir vivre sa vie, un peu dans le désordre du coup. Ça met plein d'images dans le désordre qui expliquent. Qui la montre avec son enfant, qui montre justement le début de l'histoire d'amour avec l'autre personnage qui s'appelle Yann, etc. Donc pourquoi ce choix pour toi? Tu m'as soumis cette scène directement quand tu m'as soumis le film. Pourquoi cette scène? Qu'est-ce qui est représentatif pour toi dans cette fin?
Cette scène, parce que c'est la scène qui boucle le film et avec laquelle on comprend tout, si c'était pas déjà compris avant, parce que avant cette scène, on a quand même une scène où elle parle justement aux aliens et il leur explique en fait le langage était une clé pour qu'elle puisse voir dans le temps en fait, qui nous expliquait déjà en fait que ce qu'elle voit avec sa petite fille, tout, elle l'a pas encore vécu. Mais cette scène-là, elle est encore plus représentative de comment elle voit en fait. Enfin, c'est un peu sa vision parce qu'il y a la voix off qui du coup est très point de vue interne. Mais je la trouvais intéressante cette scène parce que en fait, le début du film reprend un peu cette scène-là sans trop nous spoiler qu'en fait c'est le futur. Et je me dis, si on avait mis toute cette dernière partie au début du film et qu'ensuite on avait vu tout le déroulé du film et qu'on comprenait qu'elle n'avait pas encore vécu ça, ça aurait plus été basé sur son histoire d'amour avec Ian et en fait comment elle l'a rencontré et comment elle a fait le choix de quand même y aller tout en sachant qu'elle n'avait pas... elle connaissait pas son futur. Mais le fait que là, ce soit à la fin, c'est beaucoup plus basé sur l'histoire d'Anna et de... en fait, tout repose sur elle. Tout repose sur choisir si elle doit exister ou pas. Mm. Ça change complètement le point de vue, en fait, je trouve.
Oui, complètement. Et surtout que le personnage de Ian est finalement assez en retrait tout le long du film. C'est aussi assez remarquable pour un film gros budget, que c'est une héroïne et l'homme est un peu plus en retrait. Et elle est là pour faire une place de faire valoir un peu justement cette histoire-là. Oui, du coup, l'histoire d'amour passe au second plan et le vrai drame, oui, ça porte sur l'enfant et qui est un peu le nœud de tout ça, ouais. D'ailleurs, il y a des visions, je sais pas si tu te souviens, il y a certaines visions au milieu du film pendant que Louise est en train de s'imprégner de ce langage qui lui montre un peu des visions du futur et qu'elle comprend pas trop ce que c'est. Et à un moment donné, elle dit mais qui est cet enfant, je comprends pas. Ces visions-là, en fait, vont être un peu contaminées par ce langage-là. Je sais pas si t'as vu ça, il y a toujours un moment dans la séquence, dans les visions, où il va y avoir un rappel du corps des heptapodes, des aliens, ouais. Quoi, avec un bâton noir, parce que le corps est noir.
Ça fait les pattes.
Ouais, voilà, ça fait un peu comme les pattes, ou une ombre, une grande ombre qui se détache, et on comprend pas trop ce que c'est, mais ça ressemble aux pattes un peu. Donc oui, ça va. L'enfant va un peu concentrer tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant du coup ce que tu dis là-dessus, parce que ouais, en fait, si on refaisait un montage du film, finalement, ça raconterait pas la même chose, quoi.
Ouais, mais c'est marrant parce qu'il y a une scène où c'est une vision justement du futur où elle est avec sa fille, et j'ai l'impression que dans la scène, c'est comme si elle se souvenait pas qu'elle avait vu le futur. C'est un peu comme si elle avait oublié en fait. Qu'elle avait eu la vision sur ce futur et qu'elle avait oublié que le destin de sa fille, c'est un peu comme si tout le long de la vie qu'elle a vécue après, l'a fait oublier le point de source de c'est vrai que en fait, je le savais déjà. Et je trouve que ça, ils l'ont bien fait du coup parce que ça se tient et en même temps, ça nous dévoile pas que en fait, tout ça, c'est des déjà-vus du futur, quoi.
Oui, il y a cette phrase qu'elle dit là dans l'extrait qu'on vient d'entendre, « J'ai oublié à quel point c'était bien d'être dans tes bras ». Ça, c'est un rappel de la nouvelle dont est adapté le film, d'ailleurs, qui, en fait, est toujours écrite au futur, notamment quand elle parle de... Parce que c'est du point de vue de Louise, dans la nouvelle, et quand elle parle de sa fille, c'est toujours écrit au futur, et comme si elle se souvenait du futur.
Okay.
Donc ça retranscrit un peu aussi ce que la nouvelle avait voulu faire... avec des conjugaisons, le montage le fait avec du montage. On va dire que c'est une espèce de traduction aussi qui existe entre les deux. Donc ouais, c'est vraiment le centre de l'intrigue. Et moi, je suis assez d'accord que le fait que l'histoire d'amour soit un peu plus en retrait, c'est intéressant, quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu compliqué quand même à appréhender sans avoir vu l'ensemble du film, quoi, cette fin-là. Mais ça permet, comme tu disais, de tout remettre en place, quoi, de tout refaire, de remettre tout le puzzle. Et c'est un dilemme, du coup, sur la connaissance du futur qui va... Je sais que j'en ai déjà parlé beaucoup de ce film avec certaines personnes et qui ne va pas forcément être très compris? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu du mal à comprendre d'ailleurs au premier visionnage? Certaines personnes qui n'avaient pas forcément compris que le futur était le passé, etc.
Ah si, moi je pense que... Enfin, je me souviens plus très bien de ce que j'avais compris sur le moment, mais il me semblait que c'était assez clair la temporalité du film quand même.
Ouais.
Ouais.
Et du coup, cette fin, est-ce que tu as toujours autant de plaisir à la revoir, même en sachant que ça arrive?
Ouais.
Ouais. Et est-ce que c'est vraiment ton moment préféré du film? Est-ce que c'est ce moment-là qui va...
Ouais, franchement, oui.
Ouais.
Si je me fais un rapide...
Ouais.
Ouais, je pense.
Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la musique, c'est la...
Déjà, la musique.
Ouais, oui, on en parlait aussi en antenne, de la musique, était intéressante pour toi aussi.
Mais je pense l'ajout de la voix off aussi, qui... Ouais. Enfin, moi, déjà, j'aime beaucoup les voix off dans les films, mais là, je trouve qu'elle a... Elle a un bon pouvoir, la voix off, parce qu'elle en dit pas trop. Et le montage avec les images fait qu'en fait, on comprend sur les deux bords, quoi. On comprend ce qu'elle dit et ça se lie à ce qu'on voit aussi et à tout ce qu'on a compris en amont du film. Et en fait, oui, je trouve qu'elle en dit pile ce qu'il faut pour qu'en fait, ça nous touche suffisamment dans le... Il y a même des on-dit, en fait, qu'on sent. Et... C'est un peu ouais, cette balance entre ce qui est dit, ce qui est montré, que je trouve très émouvante.
Ouais, c'est vrai, c'est une bonne voix off qui n'explique pas ce qu'il y a à l'écran, mais qui va montrer ce qu'il y a entre les images, qui est du coup bien faite pour ça, ouais, effectivement. C'est vrai. Mais écoute, je crois que l'émission va bientôt toucher à sa fin. On est arrivé au bout de l'heure. Dans ce genre d'émission, après, j'aime bien faire des genres de recommandations de films un peu du même style. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Tu parlais de Source Code, notamment.
Ouais,
c'est un film que tu recommanderais aussi, par exemple.
Ouais.
Pourquoi ça raconte quoi, ce film
Ça raconte l'histoire d'un homme qui est engagé à désamorcer une bombe dans un train et qui se rend compte au fur et à mesure du film qu'en fait, il vit cette scène plusieurs fois jusqu'à réussir à désamorcer la bombe.
Ouais, donc c'est ça, c'est une histoire de boucle temporelle, comme il existe pas mal, mais qui est liée sur vraiment un très peu de temps, et c'est plutôt un film d'action.
Ouais.
Et oui, on parlait de Dark aussi, ouais, Dark est assez intéressant. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce qu'est Dark? J'ai donné 2-3, je sais que c'est compliqué, j'ai donné 2-3 pistes tout à l'heure, mais pour te donner envie...
Cette histoire un peu de huis clos dans une petite ville d'Allemagne, où il y a des disparitions d'enfants un peu inquiétantes, et le personnage principal, qui est Younas, il va se rendre compte qu'en fait, tout ça a un lien avec la ville en elle-même et une sorte de portail temporel qui se trouve dans la ville et qui peut le ramener dans le passé. Et tout ça lié avec tout l'arbre généalogique très complexe.
Oui, c'est ça, plus de 20 ans en arrière.
Ouais.
Et après, il y a aussi des bons dans le futur, mais tout est... oui, tout se passe dans la même ville. Et c'est très, très... très lent, oui, très, très esthétique aussi. Oui, donc ça, c'est marrant. Du coup, c'est beaucoup des œuvres sur le voyage dans le temps qui te font penser à ce film, finalement.
Ouais.
Là où moi, j'aurais plus vu des films qui ressemblent un peu à des films des années 80 ou même avant, en fait, même avant, des films très lents. Enfin, ça m'avait fait penser à Blade Runner, le premier Blade Runner, ou même à 2001, L'Odyssée de l'espace.
Ouais.
Voilà, je pense que c'est des grosses références de Denis Villeneuve.
Mm.
Qui sont pour le coup, bon, il peut y avoir des. Dans 2001, il y a des références, il y a des choses sur le voyage dans le temps, mais ce sont des films très lents, très. Un peu incompréhensibles parfois.
Ouais.
Voilà, qui peuvent être parfois trop, peut-être.
Ouais.
Donc, oui, je trouve que ça confirme bien aussi le fait que Denis Villeneuve, après, il a fait un Blade Runner 2,
ouais.
Etc. Mais ok, ouais, c'est intéressant que tu aies plus sur le côté voyage dans le temps, mémoire,
ouais,
mémoire aussi. Ouais.
Et Boucle aussi, c'est des films comme Looper que j'ai marqué aussi.
Looper, ouais.
Qui, en fait, c'est combiné voyage dans le temps et plot twist à la fin.
Ouais.
Pour moi, c'est une très bonne recette de bon film.
Ouais.
Mais Looper, pour le coup, m'avait marqué aussi dans ce côté. On s'attend vraiment pas à ce que ce soit ça, le twist, quoi.
Oui, donc Looper avec Bruce Willis qui rencontre son lui
son
du
lui
passé.
Ouais.
Ouais, qui est censé le tuer.
Ouais.
Voilà, donc c'est une espèce de... un genre de Terminator à réactualiser un peu, je trouvais ça assez cool aussi, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et qui a aussi, bon, c'est un peu plus d'un film d'action, mais il y a un côté, pareil, un peu plus lent, un peu moins moins spectaculaire peut-être parfois que d'autres films, même si quand même il y a quand même pas mal d'action, mais plus proche de source code pour le coup. Ok, bah très bien, bah merci Danae. Est-ce que tu as une chose à rajouter sur ce film ou On a fait le tour.
Ouais.
Sinon, il faudrait faire 3 émissions de plus. Mais, non, peut-être une minute, c'est peut-être compliqué. Merci Danae d'être venue parler de Premier Contact. Donc je rappelle qu'on est toujours sur Campus Grenoble 90.8. C'est une émission qui peut être réécoutée le lendemain matin, donc de 8 à 9, pendant la matinale, et qui sera ensuite disponible en podcast sur le site de Radio Campus. Je remercie aussi, Kathleen à la technique aussi, merci. Et je vous souhaite bonne soirée à tous. Et
bonne
merci Danae.
Merci à toi.
Merci.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.